Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Et bien effectivement,
la vie de tous les sports à travers ses associations, ses secrets, ses coulisses. Retrouvez-la naturellement chaque lundi de 19h à 20h30 dans Mon Paris Sport avec Philippe Carnu et toute son équipe.
Voilà, ben on a attendu la bande-annonce. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver un tout petit peu plus tôt, hein. Exceptionnellement, comme je l'ai dit, on s'adapte. Hein. Ça avait été le cas il y a quelques semaines pour un précédent Mon Paris Sport. Ben là, on s'adapte. Donc première partie d'émission 18h45, 19h45, et ensuite c'est Eladji avec d'autres intervenants qui prendra le relais pour une deuxième mi-temps. Comme ça, ça lui permettra de finir à 19h.
Parfait.
Donc un tout petit peu plus tôt, et puis de pouvoir ensuite aller tranquillement donc assister à Espagne-Portugal, c'est le match de la soirée. Il y a énormément de choses, hein, dans ce mondial. On va donc avoir l'occasion d'en reparler. Bonsoir Théo, ça va ?
Ça va très bien, et toi,
ça
Philippe ?
Ça va depuis samedi ?
Oui, bah, bien sûr. Hein.
T'as fêté ça avec tes amis.
Oh, c'était pas le match du siècle.
Non,
hein.
On va en parler. Mais Paraguay, il fallait un petit peu s'y attendre. Mais enfin, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Bonsoir Marius, comment tu vas ?
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde, ça va.
Tu continues à voir les matchs comme nous ?
On s'approche de la fin, mais ça va.
Ça va. Mais on rentre
dans la vraie Coupe du Monde.
Bon, on y est déjà, mais plus ça va, plus le niveau monte.
Hein. Que des grands matchs.
Eh oui. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe.
Comment ça va, en pleine forme ?
Ben, j'ai aussi chaud que les joueurs de foot aux États-Unis, mais sinon, ça va, on voit
alors,
des matchs.
D'une façon générale, elle plaît cette Coupe du Monde. Alors, j'allais dire sur le plan sportif, hein, parce que c'est vrai qu'on c'est pas mal quand même sur le plan sportif. On a des bons matchs, on se régale.
Il y a des bons matchs, oui. Il y a des bons matchs, il y a beaucoup de matchs quand même très faibles. Avec l'élargissement de la 48.
Oui, mais ça, c'était pour le premier tour, peut-être, et même pour le sixième.
Oui, mais en quart de finale, je pense qu'on va avoir des bons matchs.
Oui.
Les huitièmes, ça commence à être pas mal.
Bah, je crois qu'on va en parler, mais le match de cette nuit, je crois que c'est le match du Mondial.
Ah ouais.
Voilà, il y a toujours un match référence dans une Coupe du Monde, mais je crois que le Mexique-Angleterre de cette nuit, ça sera le match référence de la Coupe du Monde 2026.
Hein. Ben, je ne l'ai pas regardé.
Tu reverras, tu peux revoir.
C'était tard aussi.
En replay. Allez, on va donc commencer. On va remonter un petit peu le temps. On s'était quitté la semaine dernière pour Brésil-Norvège. Mais avant de parler de ça, on va parler de l'équipe de France. Puisque depuis notre dernière émission, l'équipe de France, elle poursuit l'aventure. Elle a battu donc la Suède 3-0 et elle a battu, on l'a dit très difficilement, le Paraguay 1-0. Théo, finalement l'équipe de France est quand même dans ses objectifs.
Oui.
Financièrement, la FFF a atteint son objectif, financièrement. Pas sportif.
Oui, après,
c'est ce qu'a dit le président Diallo.
On sait très bien que l'ambition de l'équipe de France cette année, c'est d'aller au bout.
Bien sûr.
Donc on peut dire que financièrement, l'objectif est atteint, mais il sera réellement atteint si la France va chercher sa troisième étoile. Pour revenir sur le match...
La Suède, c'était un match tranquille.
Oui, franchement, on l'avait dit.
On l'a commenté sur Mon Paris FM. 20 minutes équilibré, et après une équipe de France qui a pris carrément le dessus.
Mais là, contre le Paraguay, ça a été une bataille. Voilà, on peut dire ça. Ça a été un mélange de football, de free fight, un peu de MMA par-ci par-là. Mais l'essentiel est fait.
Oui, alors, Pierre ne me contredira pas. Le Paraguay, ils ont toujours joué comme ça. Ça n'avait pas été très facile en 98 quand on a gagné le but en or. Je l'ai dit, je l'ai répété, les Espagnols aussi avaient gagné la Coupe du Monde en 2010 en battant le Paraguay très difficilement, et aussi 1-0. Mais je crois que ça a été amplifié en plus cette année par le fait qu'on a eu un arbitrage complètement incompréhensible. Quoi. Aucun carton jaune pour l'équipe du Paraguay. Ça paraît complètement fou. Donc ça a été intensifié. S'ils avaient pris 2-3 cartons, je pense que déjà, ils auraient peut-être été un petit peu plus un petit peu plus cool, dirons-nous, même si c'est leur façon de jouer, de casser le rythme, de faire déjouer l'adversaire, de le pousser à la faute. Finalement, c'est de les faire sortir des matchs, quoi.
Ouais, complètement.
Et
l'équipe
de France,
là, c'est surtout
elle
est restée vraiment exemplaire dans son comportement à l'image de son capitaine Kylian Mbappé
qui
faisait que sourire à juste titre, etc. Et je pense que c'est une des meilleures réponses de ne pas rentrer dans ce jeu-là parce que les Paraguayens sont très bons là-dedans. Après, moi, je trouve ça sincèrement horrible. Enfin, c'était vraiment un très très mauvais match à regarder.
Et
c'est vraiment une purge. Hein.
Ah oui, non, vraiment.
Et j'ai du mal à comprendre comment on peut vraiment accepter ça.
C'est la négation du foot même. Hein.
Comment on peut accepter ça ?
Il y en a d'autres. Hein. Arsenal, c'était pas bien beau aussi.
Après, c'est encore pire.
Non.
C'est pas pareil.
Vous pouvez pas dire ça. Arsenal, c'est pas pire.
C'est pas pareil. Paraguay, c'est encore pire.
Oui, c'est encore pire. Non, mais ce que je veux dire, des matchs où c'est pas beau, il y en a eu d'autres.
Oui, mais là, dans la manière, c'était quand même exacerbé par des mauvais gestes tout le temps.
Absolument. Je pense qu'on a atteint le summum là.
Mais oui, là, c'est quelque chose d'étrange. Ou des coups, tout un tas de coups hors du temps de jeu. C'est on est revenu au football des années 60, quand il y avait l'Anglais, la Novice 16, qui découpait Beckenbauer. Ouais. Et le problème, c'est que l'arbitre, le pauvre arbitre, il était totalement incompétent. Mm-hmm. Mais il y a une raison. Il y a une raison, c'est parce qu'avec l'élargissement du nombre d'équipes, avec par exemple Curaçao, ça n'a pas une bonne équipe. Bah là, l'Ouzbékistan, ça n'a pas de bons arbitres.
Oui, oui.
Il a arbitré comme un championnat, comme un match de championnat d'Ouzbékistan.
On se rappelle notre ami Thierry Roland qui a eu des petits problèmes, qui avait aussi parlé de la compétence d'un arbitre tunisien et qui, à l'époque, avait été un petit peu traité de raciste. Ce qui n'était pas le cas, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire simplement que.
Non, mais. C'est Thierry Roland.
Mais c'était un petit peu ça. C'était un petit peu ça. Voilà. Tiens, on va saluer Vanessa qui est là. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Philippe. Oui.
Elle était sur le bateau et j'ai revu les réactions des supporters.
Voilà. C'était vraiment une très bonne ambiance. Ouais. Et puis, bon, évidemment, un match au début poussif. Et puis après, il y a eu toutes ces fautes pour moi. Voilà, je l'exprime en ces termes. Ça a failli tourner à un moment à la baston générale. Oui. Voilà, il y avait beaucoup d'accrochages. La presse paraguayenne, d'ailleurs, que j'ai fait consulter, évidemment, ils disent que c'est nous qui les avons provoqués.
Oui, non, mais et ça fait bonne guerre.
Ça
porte rien.
Mais j'avais une question pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. Je me disais, on est dans une Coupe du Monde, il y a l'élargissement, certes, mais comment se fait-il que finalement... on ne met pas des arbitres qui est quand même un certain niveau, puisqu'on est quand même à un niveau...
C'est simple, c'est comme les Jeux Olympiques, tout le monde doit être représenté, quelles que soient les compétences.
Ouais. Voilà. Ouais. Au niveau de l'arbitrage, c'est comme au niveau de la FIFA, il y a des élections.
Tous les pays soient représentés avec plus ou moins des compétences. Voilà, un jour, on va avoir un arbitre des Saint-Marins ou des îles Fairway. Si on est à la Coupe du Monde. Mais naturellement, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas les mêmes moyens et ils n'auront pas les mêmes compétences, fatalement.
Non, mais comme Cicolina a besoin de la voix de l'Ouzbékistan, il y aura de la rugby toute bête. C'est la même chose.
Et ce que je trouve fou, c'est à quel point le Paraguay, on l'a dit plusieurs fois et on continuera de le dire, n'a pas joué.
Mais non.
Et comment on peut accepter ça en disant que oui, ils jouent tout le temps comme ça, là où Cap Vert a fait la sensation du mondial en allant vraiment déranger l'Argentine et en jouant avec leurs armes, certes, mais en jouant au football, quoi.
Mais ça, c'est fantastique d'ailleurs, le Cap Vert.
Ce qui est assez dingue, c'est qu'on accepte que le Paraguay juste martyrise les joueurs parce qu'ils font ça d'habitude. Je trouve ça fou.
Non, mais c'est des philosophies de vie. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a jamais joué offensivement. Mais là, ça a été multiplié par 10 parce qu'on a
aussi un arbitre
qui l'a accepté. S'il y avait eu un arbitre qui avait été à la hauteur, qui aurait effectivement déjà distribué quelques cartons, mais c'est pas une équipe offensive de tout temps. De toute façon, ça n'a jamais été une équipe offensive, toujours très très défensive, très compacte sur les joueurs, puis qui voulait faire des jouets. On a eu des Italiens qui étaient comme ça, équipes italiennes dans le passé. Hein. Bon, je veux saluer Alfred qui vient d'arriver. Bonsoir Alfred, ça va ?
Ouais, bonsoir.
Oui. Bon, on parlait de l'équipe de France qui a assuré sa qualification pour les quarts de finale. Après la Suède, donc 3-0, match sans aucun problème, après 20 minutes équilibrées. Et puis ce match qui était vraiment la négation du football après la victoire contre le Paraguay 3-0. Bon, 1-0, je veux dire, l'essentiel est atteint, mais c'est vrai que y avait un arbitre qui n'a pas été à la hauteur et on aurait pu quand même distribuer quelques cartons, ce qui aurait quand même donné un match un tout petit peu moins dur qu'il l'a été quand même.
Oui, c'est vrai que l'arbitre...
C'est vraiment la négation du foot, à l'extrême. Ouais.
L'arbitre, il n'a pas été à la hauteur du match. Pourquoi ? Parce que déjà, même dans l'esprit des Paraguayens, il y a beaucoup de provocations. Des actes anti-jeu qui n'a pas sifflé.
C'est ça.
Et ça, c'est pas joli pour le football. Ça rend pas le football agréable. Parfois, il y a des décisions, il faut les prendre, il faut avoir le courage de les prendre. Pourquoi ? Parce que vous avez été mandaté pour ça. Donc, c'est à vous de prendre vos responsabilités, de ne pas attendre. On suppose que quelqu'un a été blessé aussi grave que ça. Donc, comment il aurait réagi ? Voilà, c'est ça qui est important. Les actes qu'ils ont posés, J'ai dit une chose, c'est pas le coup, vous recevez ouais, quelque chose. Ouais. Vous...
Il y a au moins 5 cartons jaunes qui doivent être
sifflés. Au moins 5. Il ne faut pas avoir peur de donner un carton rouge.
Voire des rouges, hein, même.
Et, voilà. Et même des rouges, j'aurais pu siffler. Mais non, mais au moins minimum.
Ouais. L'anti-jeu, hein.
5 jaunes, au moins minimum. 5 jaunes, et on aurait pu siffler.
Et même la situation du penalty, il est juste devant, et il a besoin de la VAR, alors que très clairement, il y a un contact sur Désiré Doué.
Il
n'y
aura plus manqué que ça qui siffle pas.
C'est assez fou.
C'est la seule fois où la VAR intervient.
C'est ça qui m'a choqué aussi.
Parce qu'il y a eu un coup de coude sur Mbappé, un coup de coude sur Koundé ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était quand même assez visible et au ralenti, on voyait vraiment que c'était volontaire de la part des joueurs. J'ai du mal à comprendre.
Les actes étaient très volontaires, faut le dire.
Ouais, c'était pas dans la course sans faire exprès ou quoi. Là, c'était vraiment pour couper
dans le visage.
Oui. Alors, on va quand même rappeler un petit peu quand même que le Paraguay était la seule équipe pratiquement qui a terminé troisième de sa poule, qui a battu un numéro 1, qui était l'Allemagne 1-1. Et 4-3 au tir au but, ça confirme, Pierre, la décrépitude du foot allemand, qui en plus avait toujours gagné ses matchs au tir au but en Coupe du Monde. Cette fois-ci, ils ont perdu.
Et c'est, ça montre, voilà. Ça descend, continue de descendre. L'Allemagne doit falloir qu'ils réfléchissent globalement sur leur football, comme nous, on l'a fait dans les années 90.
Ils n'ont plus de formation,
ils n'ont plus rien, alors que l'Allemagne, c'était quand même du costaud, c'était même du beau jeu.
Oui. Efficace, réaliste, en plus. Ils gagnaient toujours, mentalement, ils étaient plus forts que les autres. Là, ils ont même perdu la chance de tir au but. Le Paraguay, ils ont joué très défensif, bon, pas aussi durement que contre l'Allemand. Ils ont eu la chance d'avoir une seule bonne occasion collective qu'ils ont su bien exploiter. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu donc une grosse la confirmation du déclin du foot allemand.
Surtout que après il y a une petite amélioration puisqu'ils sortent enfin des poules, on peut le dire.
Après un exemple difficile contre la Côte d'Ivoire quand même, ils ont gagné 2-1. Mais
après, ils savaient qu'ils étaient premiers contre la Côte d'Ivoire. Ils ont pas ils ont vu qu'ils ont
Il y a eu une alerte contre l'Équateur. On aurait pu penser que c'était le troisième match qu'ils auraient laissé filer, mais ça.
C'est vrai, mais la France aurait pu se retrouver dans la même situation contre le Paraguay. Hein. Si le Paraguay avait mis une occasion, ça aurait été très dur pour la France. Donc moi, j'ai pas envie tellement de jeter la pierre à l'Allemagne, même si évidemment ils doivent remporter ce match.
Ce qui est grave, c'est qu'ils n'aient pas gagné la séance de tir au but.
Neuer, il commence à être très âgé. Est-ce qu'il a encore les jambes pour bien pousser, je sais pas. On sait que les tirs au but, c'est un peu pile ou face, dire.
Oui, mais c'est la première séance qu'ils ont perdu au tir au but. En Coupe du Monde, ils avaient cette particularité-là, ils ont gagné 4 matchs au tir au but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ils n'en avaient perdu aucun, c'était le seul.
Donc
là, ça confirme leur
Puis c'est
leur
sûr, déclin. Vu de la qualité de l'effectif, normalement, tu es censé aller très loin dans cette compétition. Après, il y a des grosses surprises à chaque fois dans une Coupe du Monde et c'en est une.
Effectivement.
Je sais pas si c'est une grande surprise.
Tu quand même que le Paraguay batte l'Allemagne, si, quand même.
Oui. Parce que ça donne un vrai exploit, mais franchement, équipe d'Allemagne, on ne l'avait pas annoncé comme une grande
nation.
Ça reste parce que, on dit ça parce que c'est l'Allemagne et c'est le Paraguay en face, mais c'est pas une grande équipe d'Allemagne comme 2014.
Il y a l'exemple qu'ils ont été obligés de rappeler Neuer.
Il manque de toutes les solutions, c'est pas possible.
C'est plus le Neuer de 2014, bon.
Non, mais on s'était dit, ils vont sortir en 8e ou éventuellement.
Là, on est
contre la France,
Là, on retient le positif qu'ils soient sortis des poules, mais c'était quand même plus compliqué de se faire éliminer en poule à cette formule-là que justement finir premier. Pour moi, c'est un mondial, encore une fois, raté de l'Allemagne assez largement dans les grandes lignes.
Largement. Alors, on va jouer donc la semaine prochaine, jeudi, ça sera aussi sur mon Paris FM, peut-être le match le plus relevé de notre parcours pour l'instant en Coupe du Monde contre le Maroc. Cette équipe du Maroc qui a éliminé les Pays-Bas au tir au but, 1-1 après prolongation et 3-2 dans la séance des tirs au but, et qui a ensuite battu le Canada 3-0. Le Canada donc qui s'était qualifié en battant l'Afrique du Sud 1-0. Là, ça va être un remake de 2022. Puis c'est l'adversaire le plus élevé qu'on va avoir depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais c'est normal, on arrive en quart de finale.
Oui, c'est à la fois un très gros test, et tu l'as dit, c'est normal, pour aller loin et pour soulever le trophée, il faut battre les meilleurs. et ces Marocains, ils font partie hein, des grandes équipes, désormais, hein, on peut le dire, hein, des grandes nations du football.
Ils confirment.
Ils l'ont montré aussi face au Canada. Il y a eu une première mi-temps assez compliquée. Ensuite, une vraie démonstration en deuxième, hein, Marius.
Oui, 3-0, totalement. Hein, ils ont complètement,
totalement.
Physiquement et mentalement, ils ont pris carrément le dessus sur le Canada. 3-0 match dans ces 16e de finale.
À noter peut-être aussi la blessure de Saïbari.
Oui.
Je sais pas s'il va être là, j'ai pas encore d'informations s'il va être là contre la France, mais en tout cas s'il est pas là contre la France, ça va être une grosse perte, moi je trouve, pour le Maroc, parce que Saïbari, le début de mondial qu'il fait, il me semble que c'est le meilleur buteur du Maroc sur ce mondial. Non, il est, moi je le trouve très très fort, il vient de signer au Bayern. Donc c'est une grosse perte s'il est pas là contre la France pour le Maroc.
Ouais. Pierre.
Et tant pis pour le Maroc.
Non, mais on en salue, hein, en tant que du foot, c'est des matchs.
Un France-Maroc, c'est bien. Un match intéressant, même si je trouve que le Maroc est un peu baissé depuis 2022. Un petit peu.
Un petit peu.
C'est les mêmes joueurs qui sont un peu plus vieux. Il y a un petit peu moins de fraîcheur. Je trouve qu'ils sont un peu baissés, mais ils ont largement la place pour être dans les 8.
On en parlera tout à l'heure. Hein. C'est les seuls qui permettent au continent africain d'être au top. Comment tu vois ce match France-Maroc? On en salive d'avance.
De façon honnête, moi je dirais simplement 70 pour la France, 30 pour le Maroc.
Ah oui, tant que ça.
Oui.
Il faut
être 70-30.
Il n'y a pas un 60-40 ou un
Maroc, 55-45. Le Maroc monte en puissance.
Oui.
Faut le confirmer.
Merci.
Mais comme je dis, ça reste un grand rendez-vous. Le Maroc joue contre la France. Donc déjà, il faut le dire que même si ces footballeurs-là se connaissent,
oui, bien sûr,
je pense que la France est largement au-dessus, il faut le dire. Maintenant, le Maroc viendra avec ses atouts, sa motivation. Tu comprends? Le Maroc n'a pas des milieux de terrain aussi costauds comme le nôtre, des attaquants redoutables comme ce que la France a. Maintenant, comme je dis, je ne suis pas en train de rabaisser le Maroc, mais la France a largement la chance de pouvoir la battre facilement si réellement la France s'implique, vous comprenez, il ne faut pas donner l'occasion aux Marocains de pouvoir conserver le ballon comme de la façon dont ils ont pris dessus sur le Maroc, vous voyez, comme sur le Canada, parce que le Maroc joue la France, le Maroc ne joue pas un petit pays, donc aujourd'hui, qu'on veut ou veut pas, certaines nations se sont présentées comme de bonnes nations, mais pour moi, la France fait partie des prétendants pour ce trophée-là.
Ah oui. Tu parlais du Canada. Bon, ils ont rempli leur contrat. Huitième de finale, ils ont rempli leur contrat.
Oui, puis même, ils ont réussi à faire douter sur la première période. Moi, je pensais qu'ils allaient ouvrir le score. Non, le Canada, c'est contrat rempli. On va voir la prochaine Coupe du Monde, peut-être encore une amélioration.
Non, je sais pas, mais enfin bon.
J'ai trouvé que ça a été une belle petite équipe, ce Canada.
Oui, mais ils sont à leur place. Ils sont à leur niveau, huitième de finale. Hein, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait. Sans plus.
Je salue Stéphane Sorando qui vient d'arriver. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Philippe.
Tu vas partager avec un micro à deux.
Aucun problème.
Juste un petit mot, France-Maroc, on vient de faire un petit peu le point d'équipe de France. France-Maroc, c'est un match, on a hâte de le vivre.
Ah bah oui, clairement, on a hâte de vivre ce match parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la France a confirmé son rang parmi les équipes les plus séduisantes de ce mondial, mais aussi parce que le Maroc s'est débrouillé depuis le début de ce mondial pour arriver en quart de finale comme une grande équipe. On n'est plus au niveau du petit pousset, limite tactiquement, limite techniquement, qu'on avait vu en 2022, qui est arrivé en demi-finale du mondial sous la forme d'un exploit. Là, on a vraiment vu une équipe confirmer son rang, qui fait partie des 10 meilleures équipes mondiales et qui va affronter la France avec de très sérieux atouts. On en a déjà parlé ici, mais le milieu de terrain, par exemple, Ayoub Wadi, Nel Ennaoui, risque de poser pas mal de problèmes au milieu français. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment, j'ai hâte de suivre ce match.
Donc surtout, vous retenez bien votre date. 9 juillet, 22h sur mon Paris FM.
Oui.
On vous fera vivre comme depuis le début de la Coupe du Monde. Donc, ce match France-Maroc, comme on le fait pour tous les matchs de l'équipe de France. Alors, la deuxième affiche qu'on connaît déjà, ça sera le Norvège-Angleterre. Peut-être un petit peu une affiche inattendue, puisque nos amis brésiliens qu'on avait quittés la semaine dernière, qui s'étaient imposés justesse devant le Japon 2-1. Hier, ça n'a pas suffi. C'est la Norvège qui s'est imposée 2-1. Et pourtant, les Brésiliens ont eu beaucoup plus d'occasions sur ce match.
C'est ce que j'allais dire. Ils ont eu un penalty en première période. J'avoue que moi, personnellement, j'ai pas trop compris cette histoire de tireur. Bruno Guimarães, je crois que j'ai jamais vu tirer un penalty.
C'est marrant, ça s'est vu. qu'on a tiré le pénalty.
Oui, moi je pensais que c'est Vinicius qui allait prendre, oui, d'habitude, normalement. Ouais. Et je vois Guimarães et je me suis dit, ouais, non, il y a un truc bizarre, il va rater son pénalty. Bah, il a raté, hein, voilà. Après, faut dire aussi, la Norvège a eu un but refusé dans les deux premières minutes, il me semble.
Oui, mais donc, logique hors-jeu. Hein.
Oui, logique hors-jeu, mais ça montrait déjà la position de la Norvège à jouer très offensif. Mais... Puis après, le match, il s'est un peu calmé. Je trouve que le Brésil, ouais, quand même, dominé.
Ah, ils ont eu des occasions, quand même.
Ouais.
Et s'il y a deux héros, c'est Haaland et puis le gardien.
Voilà. Hein. Haaland, après, qui fait ouais, du Haaland. Hein,
On l'a pas beaucoup vu, mais ça a été
suffisant. C'est ça son rôle, hein, Haaland. Ouais. Hein. C'est, il peut rien faire pendant 70 minutes et claquer un doublé dans les 20 dernières minutes. Puis après, y a Neymar qui est rentré, qui a mis son pénalty. Le Brésil rentre à la maison. Ouais. Bah, c'est triste de voir le Brésil rentrer aussitôt dans la compétition, ah oui. Alors, mais c'est pas démérité pour la Norvège.
Là aussi, quand on connaît un petit peu le Brésil, et la passion pour le foot, on peut un petit peu imaginer le deuil de ce pays. Hein.
Bah bon, oui, après, bien sûr.
Mais ça sera peut-être pas aussi pire que
le dernier, c'était le dernier match aussi, ouais, de Neymar. Hein,
oui,
donc,
oui. J'ai bien aimé le penalty de Neymar.
Oui. Penalty, toujours.
C'était chaud avec le gardien.
Ouais.
Il y a eu quelques belles insultes. Hein. Puis Neymar qui était content d'avoir marqué son penalty, même si ça
n'a pas suffi.
Si ça changeait pas grand-chose, ouais, à la donne. Théo,
ah, on a eu passé un très 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 bon moment devant ce match. Ça restera sans doute dans mes souvenirs de cette, ouais, Coupe du Monde, ouais, je pense, à voir ce qu'il y a après. Mais franchement, c'est
moments, hein,
une très belle rencontre de football, ouais, et ouais, vraiment, j'ai été impressionné. Et moi, je me rappelle de Stéphane qui disait à longueur, ouais, d'émission, et j'étais plutôt d'accord avec lui qu'on avait tendance un petit peu à sous-coter cette équipe de Norvège et que, ouais, ça serait pas une surprise, ouais, si elle allait titiller
le premier,
les grands.
Hein, ouais, le premier, hein,
on était tous plutôt d'accord. Mais
on en faisait un peu trop, je dis oui à Londres et puis voilà.
Mais non, parce que franchement, cette équipe, elle joue vraiment très bien au football. Et oui, elle a montré un Brésil qui, bon, c'est un Brésil un petit peu malade, hein, on va, oui, pas se mentir, mais, oui, mais qui a tout de même un petit peu dominé aussi. Enfin bref, c'était un super match de foot. Et Haaland, c'est Terminator.
Oui.
Parce qu'il y avait un plan, il y avait quatre joueurs, il y avait Gabriel, il y avait Marquinhos sur lui, il y avait tous les Brésiliens sur lui. Et il a dunké sur cette tête-là, mmh, mais c'était incroyable. Mmh. Deux pas d'élan, il est monté plus haut que tout le monde. Et après, bon, son deuxième but, c'est n'importe quoi. Il est à l'arrêt, mmh, elle est parfaite.
Pierre?
Bah, le Norvège qui gagne, c'est normal.
Première fois, hein, d'un coup, oui, premier quart de finale de leur histoire pour, oui, ce pays de ski de fond, oui, et de biathlon quand même. Hein.
Et pour l'histoire, ouais, le Brésil n'a jamais battu la Norvège. Et ça,
oui,
continue.
Oui, c'est
ça continue. Mais le Brésil est en crise depuis 20 ans. Il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de. Ça, ouais, fait 20 ans, il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien.
Quand on connaît la passion du foot, moi,
oui,
je suis
le
mondial 2014. Hein.
Le retour de Neymar, c'est du ridicule,
oui,
pas possible.
Oui, oui,
c'est ridicule.
Sa carrière est terminée.
Ah, bah oui, quand même. Elle était déjà terminée,
oui,
il y a,
oui,
un petit peu longtemps.
Voilà.
Mais rappeler Neymar pour faire plaisir aux gens, ouais, c'est...
Il y avait un mince espoir, mais bon.
Non,
c'était de la politique.
Alfred et Stéphane, Alfred d'abord. Approche-toi près du micro, s'il te plaît. C'est mieux pour les auditeurs.
Après,
voilà.
La prestation de la Norvège, moi, je la trouve, cette victoire, méritée. Pourquoi ? Parce qu'au niveau même de la possession du ball, le capitaine norvégien a démontré qu'il était au-dessus de tout.
Haute-garde.
Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est déjà le joueur clé de ce match. Maintenant, autour de lui, il avait deux lieutenants qui l'ont aidé. Maintenant, quant à l'attaquant vedette, comme je vous dis, depuis son départ, quand vous le suivez depuis... le Borussia Dortmund, il y avait une certaine rivalité entre lui et Lewandowski. Lewandowski avait un peu de maturité, et quand il est passé à City, il est passé d'un cran au-dessus. Donc aujourd'hui, c'est comme si vous me dites, par exemple, Marco Van Basten dans une équipe. À tout moment, c'est les attaquants qui créent du danger, qui vont marquer. Paolo aussi, pareil, vas-y. Donc pour moi, ça ne me surprend pas, parce qu'il marque avec, je ne sais pas comment vous dire, avec la tranquillité et de l'assurance.
Ouais.
Donc il est sûr de lui que la tête qu'il va placer... Voilà, il crée du danger, et le danger qu'il crée, voilà, ça donne satisfaction à son pays. Donc pour moi, c'est franchement, il n'y a pas mieux que ça, honnêtement.
Oui. Alors Stéphane,
De mon côté, très franchement, c'était déjà un miracle que le Brésil passe déjà face au Japon.
Ouais.
Là, face,
ouais,
à la Norvège, on a bien eu la confirmation que le Brésil est une nation qui vit sur son passé. Hein.
L'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme voilà.
Je dirais même que c'est pire que l'Allemagne.
Ouais.
C'est pire que l'Allemagne parce que l'Allemagne, au moins, a un vivier national qui ne demande qu'à exploser. Il y a des résultats dans les équipes de jeunes,
ouais,
et surtout, on a une culture de la jeunesse dans les grands grandes équipes de Bundesliga, qui fait qu'on voit des jeunes exploser très tôt. Là, pour le coup, du côté du Brésil, c'est très compliqué. On a parlé il n'y a pas si longtemps, on va dire, du début des années 2000 sur la fin du Brésil, la fameuse ère du Dioga Bonito, pour ceux qui ont, ceux qui ont vraiment apprécié cette ère avec Rivaldo, Ronaldinho et Ronaldo notamment, hein, Mondial 2002. Mais j'ai lu un article d'un confrère d'Eurosport, Laurent Vergne, qu'il faut saluer, qui a justement fait l'autopsie de ce Brésil en citant notamment le Brésil des années 80, à l'époque de Zico, de Socrates notamment. Et il disait dans cet article-là que ce Brésil-là ne gagnait pas, mais il était beau à jouer et marquait les esprits. Et depuis, il y a eu un passage justement en 94, lorsque
86,
même, même 94, c'est encore plus flagrant.
Quand les balles tirent au but, hein, c'est un beau Brésil.
Le Brésil 82-86, c'est une équipe superbe, mais qui ne gagne pas. Et il y a eu déjà pour regagner en 94, ça avait déjà baissé. Le niveau, c'était beaucoup. C'était le Brésil Dunga, beaucoup plus dur. C'était plus Dioga Bonito.
C'était pas
en
2002.
Non, 2002, c'était
avec
2002,
Ronaldo, c'était un peu mieux.
C'était différent parce qu'il y a eu tout d'un coup Ronaldinho, Rivaldo qui étaient dans l'équipe. T'as joué.
Et là, c'est là où vraiment on a perdu. C'est bien d'avoir cité Dunga parce que pour moi, clairement, j'ai pas connu ces périodes-là. J'étais pas né. Mais clairement, moi, en 2006, le plus gros souvenir que j'ai du Brésil, notamment le Brésil-France en quart de finale, c'est
plus
la France.
Plus beau match de l'histoire du foot.
Plus beau match de l'histoire du foot. Je pense top 3 de l'histoire du foot français, toute période confondue. Où au commentaire, ça disait que les Brésiliens, il jouait en blanc, hein, Thierry Gilardi, repose en paix. Mais c'était pour dire à quel point ce Brésil avait renié son identité avec une empreinte de jeu qui était très typée à l'européenne. Et ça, justement, c'est ce qui a été perdu au fur et à mesure par le Brésil. Et on le voit aujourd'hui, hein, avec la sortie face à la Norvège. Franchement, il n'y a aucune contestation là-dessus. Eh bien, le Brésil est à sa place.
Tiens, d'ailleurs, on va faire un peu de promo. Carl Olive, il a écrit un bouquin dessus, hein, 40 ans de Guadalajara, pour revenir sur ce fabuleux match entre donc la France et le Brésil. Alors, messieurs, la Norvège va jouer l'Angleterre, parce que cette nuit on a assisté à un match fabuleux, peut-être le match du mondial. L'Angleterre qui a battu le Mexique 3-2. On va quand même rappeler qu'au tour précédent, le Mexique avait logiquement battu l'Équateur 2-0. Ça a été un petit peu plus compliqué quand même pour l'Angleterre, qui avait battu le Congo 2-1. Hein. Congo, ils ont fait une bonne entame de match. Après, l'Angleterre a poussé, puis en poussant, bon voilà, Ken a marqué par deux fois.
Ouais, l'Angleterre avait souffert, hein, quand même, face au Congo. C'est-à-dire qu'ils s'étaient heurtés, tels des vagues à une défense qui ne pliait pas. Bon, ils ont réussi à s'en sortir, mais là, ils sont allés dans... On peut dire qu'ils avaient connu un des premiers niveaux préliminaires des enfers, mais là, ils sont allés se frotter au stade Aztèque et...
Ouais.
Fouh! Bah franchement, ce stade a une réputation et c'est pas pour rien, mais c'est assez fou. C'est assez fou parce qu'il y a une telle ferveur dans ce stade et donc ils ont failli se noyer là-dedans et c'était assez dingue, mais ils ont réussi à sortir la tête de l'eau. Enfin, vraiment, c'est un des matchs du mondial, il m'a impressionné.
Oui, et donc ils font un match remarquable cette nuit, match fabuleux, tout s'est passé, ça aurait pu basculer comme d'un côté comme de l'autre, il y a eu des beaux arrêts, il y a eu aussi complètement fou quoi comme match. Il y avait déjà eu un beau match entre l'Angleterre puis la Croatie
pendant les phases
de foot 4-2. Alors Angleterre-Norvège, cette équipe anglaise, il va falloir finalement la prendre au sérieux. Elle va enfin y arriver cette fois-ci.
Je sais pas si elle va y arriver, mais après, pour revenir sur le match Mexique-Angleterre, moi j'ai trouvé l'Angleterre pas forcément resplendissante, honnêtement, de mon point de vue.
Bon, il renverse la situation.
Pour moi, je trouve ça un petit peu bizarre que le Mexique n'a pas réussi à au moins emmener l'Angleterre en prolongation, honnêtement. Hein.
Mais tu sais, ils ont un plafond de verre, les Mexicains. En 8e de finale en Coupe du Monde.
C'est sûr, mais là pour moi, c'était vraiment open bar pour aller éliminer l'Angleterre avec le carton rouge.
Oui, en plus, ils sont à 10.
Voilà, avec le carton rouge. Bon, après, il y a le gardien qui fait une sortie un peu bizarre. 3-1, et là c'était compliqué à partir de ce moment-là. Mais moi, l'Angleterre, j'ai toujours une réserve. Je les trouve pas forcément fous en attaque. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les ailiers, par exemple. Ouais. Les ailiers de l'Angleterre.
Pourtant, Zeken et puis Bellingham, quand
même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, par contre, au centre du jeu, Bellingham et Kane, c'est du très très haut niveau. Hein. Surtout Bellingham qui m'impressionne. J'ai l'impression qu'il retrouve un petit peu ses jambes qu'il avait perdues la saison passée. Mais après, là, la Norvège, ça va être un gros défi physique, hein.
Physique,
je pense. Après l'Angleterre, je pense que c'est un. Ouais, l'Angleterre, je les vois passer. Mais parce que dans la douleur, encore une fois, ouais. comme dans tous les matchs qu'ils ont fait.
Tu peux gagner des compétitions que dans la douleur.
Oui, bien sûr, bien sûr.
98, c'était presque ça pour nous, bien sûr. Tour, hein.
Ouais. Donc, après, ça va jouer peut-être à des détails, des faits de jeu, s'il faut faire attention, pas prendre de rouge, encore une fois. Non, ça va être compliqué pour l'Angleterre.
Alors, Pierre, Théo, et puis Stéphane, et puis après...
Moi, je l'ai dit il y a 15 jours, je pense que cette fois, ça va être l'année de l'Angleterre. Oui, ça me fait vraiment du mal de dire ça.
Depuis le temps qu'on les attend, parce que
c'est... Ouais, je pense que c'est leur année. Ah, les Anglais, non, c'est pas possible.
Dans le rugby, il y a des contentieux.
Il y a des contentieux entre les Français et les Anglais dans tous les sports.
C'est plus les Anglais qui ont des contentieux avec les Français que les Français qui ont des contentieux avec les Anglais dans le foot.
Ben bon, en plus, ils avaient. On les avait battus difficilement en quart de finale. En 2022, on se rappelle Harry Kane qui a fait la tête en pleine. Ouf, heureusement. Hein. Donc, Stéphane, cette équipe anglaise contre la Norvège.
Ben, honnêtement, je vois un match très difficile à pronostiquer, si je puis dire. Parce qu'en fait, on est face à deux équipes qui sont très physiques. Qui sont très physiques. Et surtout, il y a une grosse bataille tactique qui va se jouer. Puisque Haaland va retrouver des joueurs qu'il connaît bien du côté de l'Angleterre et puis même de l'autre côté côté anglais, franchement c'est tellement passé dans la douleur que potentiellement peut aller au bout quoi. Il y a des épopées ça a soudé des équipes que de battre.
Bien sûr, tu peux gagner des matchs dans la douleur, des compétitions. L'histoire du foot le prouve. Ça.
Exactement. Moi il y a quand même un fait de jeu qui m'a réellement impressionné en fin de match, c'est l'entrée de Dan Murn. Lui il a juste attiré tous les ballons de la tête sur toutes les dernières offensives mexicaines. Ils étaient même à deux doigts d'égaliser sur la toute dernière action, je crois, 90 plus 10. Et il est rentré, il a capté absolument tous les ballons de la tête. Je crois qu'il y a 15 ballons qui ont été joués, 10 de la tête. Il a repoussé absolument tout ce qu'il fallait repousser. Merci au double maître de Dan Burn, si je puis dire. Donc, franchement, c'est une équipe qui a du cœur, mine de rien. Ça passe pas de manière aussi évidente. Ça passe toujours dans la douleur, mais c'est une équipe qui a du cœur, c'est une équipe qui a du caractère. Et en effet, ça peut être le petit ingrédient supplémentaire pour aller au bout, quoi.
Donc ça, c'est samedi 11 juillet à 23h à Miami. Ça, c'est les deux premières affiches qu'on connaît pour les quarts de finale. Il y a d'autres matchs qui arrivent aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un alléchant Portugal-Espagne. Portugais qui ont battu aussi dans la difficulté et dans la contestation, la Croatie 2-0. Ça a été beaucoup plus facile pour l'Espagne qui a déroulé devant l'Autriche, 3-0.
L'Espagne, je pense que ça y est, ils sont lancés dans leur Coupe du Monde. Le Portugal, de toute façon, j'ai l'impression qu'on répète toujours ça depuis des semaines. Il y a un problème offensivement. Tous les attaquants, je les trouve pas au niveau. Cristiano Ronaldo, Leao, et je trouve que même le coach, il essaye de chercher des solutions. Il s'en mêle les pinceaux à essayer des compositions un peu farfelues. Ça va être très compliqué. Après, on sait que c'est quand même une grosse équipe, le Portugal. Quoi qu'on en dise, il y a des gros joueurs, il y a des top joueurs.
C'est jamais des beaux matchs. Les Portugal, Espagne,
moi, je m'en souviens d'un Portugal Espagne en 2018 où Cristiano vient mettre un triplé, donc pourquoi pas le même match, même si ça va être compliqué. Mais en tout cas, moi j'attends beaucoup de ce match. J'espère que on va avoir du bon jeu. Peut-être pas pour Portugal, mais en tout cas l'Espagne, j'espère qu'ils vont nous régaler.
Ça sent la fin quand même pour le Portugal et surtout pour Cristiano Ronaldo. J'ai du mal à les voir battre cette Espagne là qui. Elle s'est un peu lancée face à l'Autriche. Elle est mieux. Elle monte en puissance. Là où le Portugal, je trouve qu'ils balbutient encore leur football. Marius l'a très bien dit. Offensivement, il y a des problèmes. On peut pas remettre toute la faute sur Cristiano Ronaldo parce que les ailiers font n'importe quoi. Enfin, je ne comprends pas. Ils ne jouent pas à leur niveau habituel. Ça prend pas au milieu de terrain. Donc, ils ont du mal à trouver des solutions. Là, en espérant que même Cristiano Ronaldo commence sa sortie. Il a annoncé qu'elle serait sans doute finie après ce mondial-là. L'idée là, c'est faut sortir la tête haute ce soir. Ça reste un match. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Portugal-Espagne, il peut y avoir des étincelles comme ça peut être un match soporifique où l'Espagne se qualifiera au bout du bout. On verra. Mais moi, je vois l'Espagne passer.
Alfred et puis Stéphane et après on aura Pierre. Alfred, toi.
Moi, personnellement, je pense que Cristiano Ronaldo joue ses derniers jours de compétition. Après, l'Espagne a de fortes chances de pouvoir passer.
D'accord. Toi, tu vois plutôt l'Espagne, Pas une séance de tir au but?
Non.
Dans le temps réglementaire. D'accord. Stéphane.
Moi, de mon côté, je pense que tout a été dit hein, autour de cette table. Y a une prise de parole qui m'a beaucoup amusé, celle de Luis Enrique pendant ses vacances.
Ah, c'est bien.
Où il disait si jamais le Portugal pouvait sortir, ça m'arrangerait parce que ça me mettrait trois joueurs en vacances.
Voilà,
trois joueurs en vacances.
Ça pense déjà à la saison prochaine.
Comme beaucoup.
Donc, franchement, je sais pas si le Portugal aura les armes nécessaires pour faire quelque chose contre l'Espagne, mais on a eu tellement de surprises depuis le début de ce mondial venant de la part des grosses équipes.
Ouais, on se régale dans ce mondial. Hein, au niveau du jeu, on se régale quand même.
Mine de rien, un petit un partout ne serait pas déconnant au terme des 90 premières minutes, je pense.
Ouais, donc toi, tu veux une séance de tir au but.
Alors, un petit peu comme
prolongation
minimum. C'est des matchs très fermés.
Souvent très fermés, on se rappelle de la finale de Ligue des Nations que le Portugal a gagné.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Récemment, le Portugal a déjà gagné contre l'Espagne, donc on ne sait jamais.
Pierre, toi ?
Moi, je vois vraiment l'Espagne parce que...
Monte en puissance,
ils sont montés en puissance. Et puis même, pas pour la morale, parce qu'il n'y a pas de morale en foot, mais pour la beauté du jeu, c'est un jeu qui est attrayant, le jeu de l'Espagne. Mmh. Alors que le Portugal, c'est non.
Très bien. Donc ça, c'est à 21h. Et puis après, à 2h du matin, il faudra enchaîner sur un USA-Belgique. Alors, c'est intéressant parce que les Américains donc, avaient battu la Bosnie-Herzégovine 2-0. Nos amis belges se sont imposés. Alors là, ça va nous permettre d'aborder plusieurs points. Ils ont battu le Sénégal 3-2 après prolongation. Alors justement, les équipes africaines à l'image du Sénégal qui sont toutes sorties. Donc après, sauf l'Égypte et puis le Maroc, mais les autres équipes qui sont toutes sorties en 16e de finale, et s'il y a bien une équipe
qui aurait
dû poursuivre l'aventure, c'était le Sénégal, quoi. C'est incroyable, quoi.
Ouais, on avait loué à juste titre, on avait loué le fait que 9 équipes sur 10 du continent africain étaient passées, s'étaient qualifiées. Ça a été assez très vite l'hécatombe, mais malheureusement.
Ils sont passés à la trappe. Alors, ça montre, mais là, c'est un autre débat. Peut-être encore tout le progrès doit faire le foot africain pour véritablement être au top.
Hein. Oui, il y a du mieux.
Il y a des pistes. Qui rentrent en ligne de compte.
Il y a des pistes de progression évidentes. Il y a du mieux. C'est pas encore assez, mais c'est vrai que c'est quand même décevant.
Mais le Sénégal était vraiment
du côté du Sénégal.
Bien sûr.
C'est l'équipe qui a gagné la CAN sur le terrain, dirons-nous.
Ils l'ont gagné.
Il devait aller plus loin et il devait surtout battre cette équipe de la Belgique qui est vraiment l'ombre d'elle-même. Enfin, il y a 2-0 à la 86e qui est plus proche du 3-0 que du 2-1. Et même à 2-1, c'est pas alarmant. C'est ton gardien qui te met dans le saut.
Ouais, parce que même si ça va un peu mieux quand rentre notre ami belge,
Lukaku.
Les Belges sont pas dominateurs.
Ah non, mais on est plus proche du 3-0. On est plus proche du 3-0. Le Sénégal, bien que malade et à quel point il est malade, parce qu'on connaît tous les problèmes qu'il y a eu avec la délégation, enfin bref, tous ces trucs-là, on va pas forcément revenir dessus. Ce Sénégal malade a martyrisé la Belgique pendant 85 minutes. Et c'était à plate couture. Il y avait pas de débat. Il devait se qualifier. C'est une faute professionnelle de ne pas gagner ce match.
C'est une faute. C'est invraisemblable. Il y avait aucune raison de s'écrouler à 5 minutes de la fin.
Alfred, tu penses pareil, toi, et qu'est-ce qui explique un petit peu que les Africains sont quand même en retrait, ne progressent pas quand même dans ce mondial, hein, à l'exception du Maroc. Hein.
Dans mes interventions, j'ai toujours dit que la Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est pas une compétition. Au fur et à mesure qu'on monte en puissance, il faut tenir, il faut résister. C'est ça le combat de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, ça ne me surprend pas que les équipes africaines elles sortent. Pourquoi je dis elles sortent? Elles sortent parce qu'elles n'ont pas compris que la compétition au haut niveau, ça se joue dans la résistance, ça se joue avec la maturité. Et puis les Africains, en grande partie, une fois qu'ils dominent, une fois qu'ils mènent au score, ils restent sur leurs acquis. Et vers la fin, ils sont battus. Donc ça veut dire qu'ils sont tirés vers le bout.
C'est peut-être là qu'ils doivent progresser. Et puis l'environnement.
Il faudra qu'ils soient préparés mentalement par rapport à ces grands rendez-vous-là. Et que quand ils sont face à des grandes nations, c'est de jouer librement, ne pas avoir de complexe, ne pas vouloir dit que non, on mène 2-0, on est qualifié, on essaie de ralentir le jeu. Non, parce que vers la fin, on est épuisé, et on se retrouve dans son camp, on ne fait que défendre. Et quand on défend, vers la fin, on perd. Donc pour moi, c'est un peu ça. L'Afrique a marqué un bon pas, il va falloir continuer à travailler, mais c'est pas un acquis.
Non, parce qu'il y a eu quelques années où on a eu au moins une équipe africaine, il y en avait trois dans l'histoire du foot qui est arrivée en quart de finale. On ne parle pas du Maroc.
Le
Maghreb, c'est un petit peu différent. Il y a des structures autres. Il n'y a pas de progression, malheureusement, quoi. À l'image de ce qui s'est passé avec le Sénégal.
De confiance, ne confirme pas que vous êtes aussi fort que ça, parce que quand vous êtes face aux difficultés, à la résistance, vous n'avancez pas. Et c'est là qui fait que vous perdez. Pour moi, c'est un peu ça pour les nations africaines, parce que ce soit le Congo, le Sénégal,
ça s'effondre surtout dans les dernières minutes.
Donc pour moi, ils sont à bout de souffle. Il va falloir gérer tout ça, les émotions, Voilà, même si le climat n'est pas facile, mais bon, il faut être préparé à ça.
Ouais. Stéphane, voilà.
Eh ben, pour moi, je rejoins justement l'avis d'Alfred, mais avec quand même une donnée supplémentaire, parce qu'on parle beaucoup du Maroc, mais il y a aussi l'Égypte, hein. On n'en parle plus
oui,
du tout.
Alors, à mon avis, ils sont à leur niveau en 8e, hein. Mais ils vont ouais, sortir derrière l'Argentine. On va en parler tout à l'heure.
Ouais.
Oh, c'est pas une équipe quand même géniale à voir jouer, mais enfin bon. Ouais.
Que ce soit une équipe pas géniale à voir jouer, c'est une chose. Mais en attendant, elle signe son meilleur parcours de son histoire en Coupe du Monde.
Mais je pense qu'elle sera à son niveau en 8e.
Il n'y a aucun souci là-dessus.
C'est mon opinion, je peux me tromper.
Bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, c'est surtout, faut pas oublier le travail de l'Égypte sur cette Coupe du Monde, puisqu'on on a suffisamment descendu les pharaons pendant la CAN parce qu'ils avaient un style de jeu extrêmement minimaliste. Là, pour le coup, je les ai trouvés. Allez, si on enlève le match bizarre contre la Belgique en ouverture de ce mondial, je les ai trouvés beaucoup plus entreprenants avec plus de principes de jeu. Et pour le coup, c'est là aussi, il faut saluer le travail des Égyptiens là-dessus, sachant qu'il y a Égypte et Maroc, ça fait deux équipes bien placées, avec une qui est en quart de finale et qui peut potentiellement aller en demi-finale, hein, parce que c'est pas dit que la France passe face au Maroc. Voilà, c'est pour le coup, en ce qui concerne les autres équipes africaines, oui, il y a un gros travail à faire, à continuer de faire, qui a déjà été entrepris par le Maroc, puis par le Sénégal et tout, mais les autres nations doivent aussi suivre derrière. Je pense notamment à l'Algérie, qui pour moi est une équipe qui m'a un peu déçu sur ce mondial-là. Donc voilà, il y a des choses à faire. Il y a le Cap-Vert aussi qui doit poursuivre.
Oui, alors on va
sa
parler dans
aussi.
Le tableau, mais ça, le Cap-Vert, c'est fabuleux, c'est la révélation africaine, j'allais dire, de ce mondial. Quoi.
Tout à fait.
Il n'y a pas de problème.
Après, pour revenir sur ce qui s'est passé entre la Belgique et le Sénégal, clairement, c'est une faute professionnelle. 2-0, 86e minute, ils doivent absolument bétonner derrière, même si c'est gagne petit. Mais il y a 2-0, on joue pour une place de plus en Coupe du Monde. Il faut pas se laisser griser par le fait d'être proche de remplir sa mission. Non, au contraire, il faut rester concentré jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et on l'a vu hein, dans ce mondial, il y a eu énormément de buts qui ont été marqués dans le temps additionnel, peu importe les équipes. Donc, pour le coup, le fait que la Belgique soit revenue d'entre les morts de 2-0 à 2 partout, puis à 3-2 en toute fin de match, toute fin de prolongation sur un penalty, ça montre que c'est une grosse faute professionnelle, c'est une vraie catastrophe.
Alors, est-ce que la Belgique peut battre les USA? Alors, surtout que Balogun revient. Balogun
n'a plus carton rouge. Ce qui est un scandale absolu.
C'est la première fois qu'on a vu ça. Alors, avec Pierre, on en parlait. Nous, on est d'une génération, on avait vu le chèque hein, du Koweït descendre sur le terrain. Mais quelqu'un qui interpelle la FIFA, renvoyer le carton rouge, oui.
Mais
tout le monde l'a reconnu.
C'est la Coupe du Monde de Trump.
C'est la Coupe du Monde de Trump,
on l'a dit avant. Pendant la Coupe du Monde, il y a eu le spectacle, un peu le pas, c'était plutôt pas mal, et puis là, paf. Trump qui demande la suppression d'un carton rouge et s'il l'obtient.
Ce qui peut arriver de mieux, on est journaliste, nous, hein, ça ne nous rapporte rien. Ce qui peut arriver de mieux, c'est que la Belgique gagne ce match aujourd'hui.
Oui.
Sur terrain.
Je souhaite que la Belgique l'emporte.
La Belgique a toutes ses chances face aux États-Unis. N'interviendra pas, si Lukaku part en profondeur. Si Lice ne va pas interpeller De Bruyne, on ne sait pas.
C'est dur.
On verra. Mais c'est quand même dingue. C'est bête à dire, mais c'est dingue qu'un président des États-Unis intervienne pour faire suspendre une suspension. En plus, c'est même pas parce que c'était litigieux. Enfin, la faute de
Elie. Il a cassé la cheville, il fait pas exprès de le blesser gravement.
Ouais. Enfin, je trouve ça assez fabuleux. Et en plus, il s'en vante directement sur les réseaux sociaux d'avoir pu faire annuler cette décision.
Mais tu connais le personnage.
Oui, mais je ne comprends pas comment on ne peut pas se cacher.
On a une fois de plus l'expression de la bêtise de ce président. Je crois que même le mot bêtise est assez faible. Le fait de voir la FIFA accéder à ses demandes, se coucher à ce point-là, c'est un scandale.
Ils sont corrompus.
C'est un scandale. Je ne vais pas me risquer à dire ils sont corrompus parce que. Je vais pas me risquer à dire qu'ils sont corrompus parce que je n'ai pas à ce jour les éléments officiels qui prouvent que cette compétition est surtout avec les dépipés. Pour autant, la manière dont il s'est exprimé, ce ne sont pas des éléments que je prends en considération. Pour moi, il n'y a pas eu une enquête où on arrivait au bout du truc en se disant voilà, le mondial 2026 a été corrompu par les États-Unis pour telle raison. On n'en est pas encore là. Cela dit, on est tous d'accord pour dire que la décision est scandaleuse. Oui, oui, on est d'accord. Je reste vraiment sur ce qui se passe par rapport à Belgique et États-Unis. On est d'accord que cette décision est scandaleuse. Le fait de voir la FIFA se coucher à ce point-là, il faut le dire, c'est très dangereux pour l'avenir du football avec un grand F. Parce que là, on peut ouvrir la porte à tout et n'importe quoi.
T'imagines, Pierre Platini était à la FIFA, est-ce qu'il se serait couché, lui ?
Non, mais on refait pas l'histoire, mais Infantino et Trump, ça fait 6 mois qu'ils ont été sans main dans la main, on les voit partout. On les voit partout, sur tous les plateaux. Donc si Trump demande un truc à Infantino, lui dit oui.
Et les votes arrivent. Il y a eu un très bon reportage de notre ami Nicolas Jay dans un Stade 2 il y a quelques années. Qui avait tout expliqué comment on vote, et puis en fonction des votes, on donne des terrains.
La suspension, on parle pas d'un quatrième réserviste qui va pas jouer.
C'est un des meilleurs joueurs de l'Italie.
Un des meilleurs joueurs de l'équipe. Leur meilleur marqueur. Rudy Garcia, il s'est targué un petit peu d'ironie en conférence de presse en disant que bon, il se concentre sur son équipe, mais on sait très bien que c'est faux. Tu prépares un match en fonction aussi des forces adverses, et là, d'un seul coup, à un jour et demi. D'une rencontre qui est super importante parce qu'on parle d'une Coupe du Monde, tu te retrouves à devoir changer ton plan parce qu'il y a le meilleur attaquant de l'équipe adverse qui va finalement jouer. Ça rebat toutes les cartes. Et ce soir, moi, j'ai une petite pensée amicale à l'arbitre.
Oui.
Parce que ça va être compliqué pour lui. Hein. Tout ce qui va siffler, ça va être analysé, suranalysé par nous, partout. Ça va être assez dingue et ça va être un match à suivre.
C'est dommage parce que c'est une belle équipe, l'équipe américaine. Hein. Ils mettent du cœur dans
Elle joue plutôt bien. On a été tous un petit peu surpris parce qu'elle a fait une très belle phase de poule avec des bons préceptes et tout. C'est un petit peu entaché, en effet.
C'est déjà arrivé. Voilà. Donc, ça sera pour cette nuit. Et puis, demain, il y aura encore deux autres derniers matchs, puisque ce sera Argentine-Égypte à 18h et puis Suisse-Colombie à 22h. Donc l'Argentine qui a quand été poussée dans ses retranchements par le Caver, donc 3-2 après prolongation. Et puis l'Égypte qui s'est imposée devant l'Australie, un partout après prolongation, 4-2 au tir au but. Donc voilà, donc on en arrive. Le Caver, c'est la belle révélation. L'Égypte, il risque de s'arrêter là. Et l'Argentine, malgré ses difficultés et dans la douleur, elle a un tableau où elle peut aller en finale.
C'est vraiment pas fait pour l'Argentine face à l'Égypte.
Oui, parce qu'on va rappeler que dans l'autre match, donc Colombie, la Suisse qui a battu l'Algérie 2-0 et la Colombie qui s'est, malgré le score, imposée facilement devant le Ghana 1-0.
Colombie,
c'est fort.
On parlait de tout à l'heure de l'Angleterre qui avance petit à petit au fur et à mesure des matchs compliqués. L'Argentine, elle est un petit peu dans le même cas. C'est-à-dire qu'elle s'est vue très belle face au Cap-Vert aussi, entre guillemets, sur papier, il n'y a pas photo.
C'est incroyable. Hein.
Le Cap-Vert, ça restera la plus belle surprise pour l'instant de cette Coupe du Monde parce que c'est une équipe qui a vraiment tenu tête au plus grand. Ils n'ont pas perdu en phase de coupe. Ils n'ont pas perdu un match dans le temps réglementaire. Là, ils perdent en prolongation.
Et puis, ils font 0-0 contre le
championnat. Ils perdent pas un match.
Et ils sont battus à la prolongation contre le championnat.
Et là, l'Argentine, justement, elle s'est aussi fait peur. Et je pense que ça peut leur servir pour après parce que avoir que des matchs très simples pour certains, quand d'un coup l'adversité monte, ça peut être aussi compliqué pour les joueurs de maintenir le rythme et se mettre au niveau. Là où l'Argentine s'est fait peur, peut-être que ça replace un petit peu le curseur et ça recadre tout le monde. Donc ça va être un joli match, notamment aussi tu l'as dit, parce que l'Égypte, on les a annoncés un petit peu faibles et au final ils jouent plutôt bien. Donc attention, c'est pas fait.
Et puis peuvent retomber aussi dans leur travers de la CAN, c'est-à-dire marquer très tôt et puis ensuite
pétonner
derrière et
perdre
le match.
C'est une équipe qui est comme ça. Elle a eu des coups de bambou contre l'Australie, ça. Mais enfin bon, voilà. Marius ?
Ah oui, franchement. Normalement, ça devrait pas poser de problème pour l'Argentine. Honnêtement,
plus ouvert.
Suisse-Colombie, j'ai hâte de voir aussi ce match parce que ça promet d'être aussi serré. En plus, c'est vraiment des visions de jeu très différentes. La Colombie, je les trouve vraiment pas mal sur cette Coupe du Monde. Ils ont de beaux joueurs. Luis Suarez, Luis Diaz. Non, franchement, ils ont une belle équipe. La Suisse aussi très très impressionnante, même s'il y a un début de mondial un petit peu poussif. Là, je les trouve franchement très bien, avec pour moi une des grandes révélations, Mazembe, qui est franchement très 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 fort. J'attends de voir ce match. Moi, je pense que ça va être plus être du côté de la Colombie. Moi, je vois la Colombie passer pour aller affronter l'Argentine dans un très, très gros match.
C'est une équipe de Coupe du Monde, hein, souvent niveau 8e quart, la Colombie. Hein. C'est une équipe de Coupe du Monde. Hein,
avec un James Rodriguez
toujours là. Ouais, ouais. Donc, un petit mot de Pierre, et puis après, on va écouter Alfred.
Chile, Colombie, très indécis. Ouais. Argentine, je pense qu'ils vont passer, mais... On les voit trop beaux parce qu'en fait, c'est la même équipe qu'en 2022, sauf qu'ils ont 4 ans de plus.
Ah oui,
c'est donc pour moi, je les vois pas aller au bout.
Ouais, tu ne les vois pas aller au bout, non. Malgré un tableau qui semble un petit peu plus dégagé.
Oui, mais
c'est ce qu'on avait dit. Mais enfin, bon,
il y aura quand même une finale.
Ouais. Mmh. Et Suisse, donc
Suisse, c'est intéressant. Ouais. Je pense que la Suisse peut gagner. La Suisse comme la Colombie sont à leur niveau pour les quarts.
Oui. C'est vrai que c'est des équipes qui arrivent souvent, qui peuvent arriver en huitième et puis en quart. Alfred, comment tu vois ça, toi, la deuxième partie de tableau, celui de l'Argentine?
L'Argentine face à l'Égypte.
Oui, entre autres, oui.
C'est un match difficile à pronostiquer.
C'est ça qui est la beauté du foot. Ah bon?
Ouais. Pour moi...
Malgré le fait que l'Argentine soit championne du monde en titre, défense
voilà,
son titre,
c'est ce côté-là qui est Lionel Messi. En faveur de l'Argentine, parce que ça reste la renouée.
Ouais.
L'Égypte vient sur le marché pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie de faire. On ne sait jamais. Parce que les Égyptiens sont parfois combattants aussi. Il ne faut pas le cacher. Mais je pense que ça penserait plutôt pour l'Argentine. Pour moi, personnellement.
Ouais, et la Colombie, la Suisse
Colombie-Suisse, de façon honnête... La Colombie a de la maturité et de l'expérience, il ne faut pas le cacher. La Suisse arrive en tant que nation régulière sur les compétitions internationales, donc ça reste un match.
C'est jamais une équipe facile à jouer.
La Colombie a de grands attaquants, qui créent beaucoup de dangers. Comme tout à l'heure, Lodjundi, Mazambi aussi est une révélation. Ça reste un match ouvert, mais je dirais plutôt la Colombie un peu légèrement déçue. Si réellement, d'entrée de jeu, la Colombie manifeste son désir de pouvoir gagner le match. C'est ça, parce que Luis Díaz, c'est quelqu'un qui est très percutant. Si l'occasion se présente, il ne fera pas de cadeau. Rames, place de bon ballon. Au niveau de l'axe central suisse aussi, il y a de bons milieux, on ne sait jamais. Mais ils vont devoir s'exprimer.
Ouais. Alors, on va rappeler, Argentine-Égypte, c'est demain à 18h à Atlanta. Et puis, ensuite, à 22h, on aura à Vancouver, Suisse-Colombie. Et après, ça sera fini pour donc les 8e. Et on rentrera directement dans les quarts de finale. Donc, je veux rappeler que pour l'instant, on connaît deux quarts de finale. France-Maroc, ce sera donc jeudi sur mon Paris FM, donc avec un avant-match à 21h et le match donc à 22h. Et Norvège-Angleterre, ce sera le samedi 11 juillet à 23h. Et puis, on va rappeler que les autres quarts de finale, donc celui qui découdera du match Portugal-Espagne et USA-Belgique, aura lieu vendredi à 21h. Ça sera à Los Angeles. Donc, oui, on va avoir des matchs un petit peu plus tôt maintenant.
Oui.
Et puis, le dernier quart de finale qui découdra des matchs du vainqueur entre l'Argentine et l'Égypte et la Suisse et la Colombie, eh ben, ce sera un match, par contre, à 3h du matin à Kansas City. Ça sera le 12 juillet. Voilà. Alors, il y a aussi une belle actu sportive, en dehors du mondial. Quel sacré week-end.
Ben, bien sûr,
Vanessa,
Philippe.
T'as suivi ça. Avec beaucoup d'intérêt tout ce week-end.
C'était le début du Tour de France. Philippe, c'est l'événement majeur de ce week-end.
Bien sûr.
Et donc, ce Tour de France a ouvert samedi à Barcelone pour un contre-la-montre remporté par l'équipe.
Ville de foot.
Visma, exactement. Ouais. Par l'équipe Visma, c'est Jonas Vingegaard au terme de cette première étape qui s'empare du maillot jaune. Sur la deuxième étape, hier, c'est le Mexicain Isaac Del Toro qui s'impose devant son coéquipier Tadej Pogacar. Et c'est déjà une image, donc, des belles images de ce Tour de France. Pogacar laissant volontiers la victoire à Del Toro, qui est, on le rappelle, son coéquipier. Hier, Vingegaard était toujours au premier au classement général, mais donc aujourd'hui, les choses ont changé.
Ouais.
Résultat de cette troisième étape entre Granollers et les Angles, donc c'est Tadej Pogacar qui s'empare du maillot jaune. Un petit mot peut-être sur cette troisième étape, puisqu'au début, les concurrents ont eu du mal à se départager. Et c'est vraiment dans les derniers mètres de la côte des Angles que notamment Pogacar s'est envolé vers la victoire. Il devance Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Paul Sexas termine à la quatrième place. Est-ce que vous voulez le classement général, Philippe?
Non, mais non, je sais d'accord. Que Sexas n'est pas loin, mais
voilà,
tu peux donner les trois premiers.
Je peux tout à fait vous donner les trois premiers.
Ouais.
Donc Pogacar, et puis donc Vingegaard, Remco Evenepoel, et puis Isaac Del Toro et Evenepoel, pardon.
Evenepoel.
Et donc, notre Français, si je ne vous dis pas de bêtises, arrive sixième, exactement.
À 48 secondes,
j'ai regardé l'arrivée. À 48 secondes, c'est voilà. Exactement ça. Je vais vous donner les résultats seconde par seconde, mais on va raccourcir. Voilà, puis on va passer donc à la F1 avec Charles Leclerc qui renoue avec la victoire.
Un monégasque,
exactement. Après presque 2 ans sans succès, d'ailleurs, je rebondirai, vous savez qu'il y a un autre monégasque maintenant qui s'appelle Armand Duplantis, en Grande-Bretagne. Je reprends sur la F1. Donc en Grande-Bretagne, le pilote Ferrari termine devant George Russell et Lewis Hamilton. On passe au tennis maintenant, la petite balle jaune. Donc à Wimbledon, on approche des quarts de finale. Et malheureusement, plus aucun Français en lice. À noter l'élimination d'Arthur Fils. On sait. Au second tour, et puis celle d'Arthur Rinderknecht, éliminé au troisième tour face à Novak Djokovic. Chez les femmes, c'est l'hécatombe. Sur le reste du tournoi, on peut noter l'élimination surprise de la numéro 1 mondiale Sabalenka, défaite en 2-7, 6-2, 7-6 par la japonaise Osaka, qui finalement là revient au moins sur ce Wimbledon pour le moment. On file maintenant à Saint-Etienne pour faire un petit bilan des championnats de France de natation. Marie-Ambre Molu est sans doute la révélation, 3 titres de championne de France. À seulement 20 ans, elle décroche l'or sur le 50 mètres d'eau, 100 mètres d'eau et enfin sur le 50 mètres nage libre. Johan Ndoye-Brouard a lui aussi impressionné en remportant l'or sur ses 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres d'eau. Pour Léon Marchand, il n'y a pas de très bonne nouvelle, malgré qu'il ait remporté l'or sur le 400 mètres canoche, puisqu'il s'est blessé et que ça l'a forcé à abandonner. Et donc le verdict est tombé, c'est une lésion musculaire, rien de grave pour la pépite française. Et puis on va évidemment terminer ce journal des sports par du rugby. À la première journée du championnat des nations, la Nouvelle-Zélande s'impose de peu face à la France, 34-32, c'est pour vous dire, pour les Bleus. Et puis le Japon, lui, s'impose 57-10, donc large victoire face à l'Italie. L'Irlande prend le meilleur sur l'Australie, victoire 33-31, et le Pays de Galles, lui, s'impose 39-24 face aux îles Fidji. L'Afrique du Sud étrie l'Angleterre, 45-21, et enfin l'Écosse s'impose 47-38 face à l'Argentine. Le 15 de France affrontera l'Australie le 11 juillet prochain. Voilà pour ce journal des sports, Philippe.
Ouais, ils ne sont pas passés bien loin, nos amis du rugby, mais enfin, moi, ça n'a pas été suffisant, deux points.
Malheureusement.
Pierre, juste un petit mot sur le Tour de France.
Ah, sur le Tour de France.
J'ai regardé l'étape aujourd'hui.
Ah, mais il est déjà terminé, le Tour de France.
Ouais, ouais.
Pogacar a gagné. A gagné, il le montre.
Non, parce que tous les favoris sont là.
Pogacar dans la
montre. Il est maillot jaune et puis maillot vert, c'est aussi lui en termes de points. Le maillot blanc, Isaac Del Toro.
Mais voilà. faut le voir dans la fin de la montée, il regarde les autres. Quoi.
Il a gagné Del Toro hier.
Oui,
comme souvent.
Mais là, on voit qu'il est vraiment plus fort.
Faut quand même noter la belle progression de Paul Sexas, même si pour lui, ce Tour de France, c'est quand même aussi un test. Qui garde la tête froide. On l'a vu en conférence de presse, dans plusieurs articles aussi que j'ai pu lire. Donc, on lui souhaite le meilleur, évidemment. Mais il vient et il sait de quelle manière il vient. Il a la tête froide et il sait ce qu'il fait. Voilà.
Il prépare,
ouais.
On verra.
Petit à petit.
Oui, petit à petit. Et je pense que Pogacar ne va pas l'humilier.
Non. Je pense que quoi qu'il arrive, il ressortira, entre guillemets, vainqueur de ce tour.
Alors qu'aujourd'hui, Pogacar, il a humilié Vingegaard. Vraiment.
Voilà. Un petit mot, tu étais sur le bateau samedi.
Tout à fait, Philippe.
Alors, comme Stéphane d'ailleurs, qui avait été la fois précédente, on est retourné sur ce bateau Coca-Cola. Tu peux nous en parler un petit peu?
Bien sûr, Philippe. Donc, je suis arrivé vers 22h. Donc, vous, quand vous étiez dans l'avant-match.
J'étais en direct.
Évidemment, quand vous m'avez appelé.
Comme Stéphane.
Exactement. Il y avait déjà évidemment beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance déjà dès 22h et je pense même bien avant. C'était animé. On sentait vraiment la ferveur. Et puis, comme vous l'avez vu, j'ai pris quelques supporters français au micro en direct.
Et des Paraguayens.
Et des Paraguayens, même si on ne les a pas entendus. Mais les Paraguayens, d'ailleurs, figurez-vous que les Paraguayens que j'ai... Enfin, les supporters du Paraguay étaient colombiens. Mais évidemment, oui. Mais et on soutient sa région, quoi. On peut dire ça comme ça, son continent. Et donc, je vous ai délivré un petit peu leurs mots. Et écoutez, c'était une très bonne ambiance, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y avait, c'était vraiment très bien. Et
ça criait fort ou très fort sur les fautes paraguayennes.
Évidemment. Quand j'ai vu quand ça allait tourner à la baston générale, par contre, dans ce match, moi je trouve, alors ça c'est pas sans parler du bateau. Il y a eu quand même un certain nombre d'occasions manquées. Au début, c'était un peu poussif. Mais bon, on a fini par quand même s'imposer. Donc c'est... Et tout ce dont vous avez parlé auparavant, je ne vais pas revenir dessus. Voilà pour ces petits compte-rendu.
Non, mais il fallait en parler parce que c'est un des lieux du coin sympa.
En tous les cas, exactement. Ah oui, voilà, juste un dernier mot. Ouais. C'est vraiment très agréable parce que vous êtes soit à l'extérieur avec la Seine, soit vous êtes à l'intérieur et quand vous descendez en bas, vous avez même des grandes barques. Donc c'est vraiment très sympathique. Très agréable comme lieu et c'est un lieu où il faut venir toute l'année en fait. Voilà.
Très bien. Allez, 19h43 minutes. Je cède maintenant la place à notre ami Eladji pour la deuxième mi-temps avec une autre équipe d'intervenants. Belle soirée à tous et à tous. Vous n'oubliez pas, vous nous retrouvez jeudi pour le match France-Maroc parce que plus que jamais, le sport et le foot, c'est aussi sur Mon Paris FM. Allez, belle soirée.
Belle soirée.
Au revoir.